C'est l'heure de l'atelier sur Prune. Un espace sonore dédié aux créations, émissions et fictions, réalisé dans le cadre de nos ateliers radio.
Cette émission est issue d'un atelier réalisé en juin dernier au centre de détention de Nantes. Vous pourrez entendre des créations sonores autour du sport. Il sera question des bienfaits que peuvent apporter la pratique sportive, du dépassement de soi, mais aussi de notre rapport au collectif. Malgré les barrières de la langue pour quelques-uns, chacun s'est prêté au jeu du témoignage avec des bribes de souvenirs, mais aussi une interview réalisée sur place avec la coach de MMA, Télissé. On a le plaisir de vous faire entendre ces voix sur Prune. Bonne écoute.
Quand j'étais petit, à l'âge de 10 ans, je me souviens être parti de chez moi tout le matin avec mes copains de club de foot du quartier pour aller à la salle de Kervarik à Lorient pour disputer un tournoi de foot. Ça avait commencé à 9h et ça avait fini à 19h. Il y avait une vingtaine d'équipes ce jour-là, beaucoup de monde dans la salle. Les familles, des joueurs de foot de un peu toutes les équipes, des entraîneurs, des supporters. Et je me souviens avoir marqué un but lors d'un match. Elle était remplie, vu qu'il y avait les familles des joueurs de foot, les entraîneurs, les copains. Donc du coup, c'était rempli, ça résonnait, c'était une salle fermée. Avec un terrain de handball, avec les panneaux de basket qui étaient en hauteur pour qu'on puisse disputer des matchs de foot. Oui, c'était des matchs qui duraient 7-8 minutes. 7-8 minutes, c'était des matchs de poule. Après, il y avait les phases finales, quart, demi, finale. Et nous, ce jour-là, on avait remporté le tournoi.
La forme. Dans la reine avec Télissé.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission sportive À fond la forme. Aujourd'hui, dans l'arène avec TVC, notre équipe de chroniqueurs en herbe reçoit l'ex-championne de MMA et désormais coach et fondatrice des MMA Girls, TVC. Cette rencontre conviviale sera ponctuée de souvenirs sportifs de nos chroniqueurs et de pauses musicales. Bonne émission et à tout de suite dans l'arène avec TVC.
Eh ben, je m'appelle TVC, je ne dis pas mon âge parce qu'on ne dit pas son âge à mon âge. Et je suis votre invitée aujourd'hui, je crois. Et donc on va parler du MMA et de ce que j'ai fait et ce que je fais toujours. Quoi. Je suis très contente d'être là.
Bonjour, qu'est-ce que vous avez amené à faire des MMA?
J'ai commencé à faire du MMA après avoir vu mon mari, enfin aujourd'hui mon mari, mon petit copain à l'époque, qui s'entraînait. Moi, je faisais du kung-fu et je suis allée le chercher à sa salle de sport et il faisait du MMA et j'ai découvert ça. J'ai trouvé ça très intriguant de voir des prises au sol. Je connaissais pas du tout le combat au sol et c'est ça qui m'a donné envie de commencer.
Du coup, j'avais une petite question. À quel âge avez-vous commencé et qui vous a encouragé ?
Que j'ai commencé le MMA ? J'ai commencé le MMA à... Il faut que je calcule. Donc, du coup, vous allez savoir mon âge. Donc, j'avais 24 ans. Donc, qu'est-ce qui m'a amené, enfin, qui m'a amené un peu toute seule? Après, j'ai découvert et ça m'a, comme je disais à Bachir, ça m'a intriguée. J'avais envie de connaître un petit peu plus cette zone de combat qu'on ne voit pas. On a l'habitude de voir la boxe, un petit peu du judo, mais on n'a pas l'habitude de voir les combats au sol, même dans les films d'action, il n'y a pas ça. Et vraiment, c'était quelque chose qui, avec mon gabarit, un petit gabarit, au sol, peut battre des gabarits plus lourds avec de la technique. Et c'est ça qui m'a interpellée. Je me suis dit, ah oui, parce que moi, je ne suis pas grande, je ne suis pas épaisse. La boxe, même quelqu'un qui a moins de technique, mais s'il est plus fort, je me prends une droite, je tombe par terre quoi qu'il arrive. Même si c'est une droite qui n'est pas technique, voilà. Par contre, au sol, avec mes années de pratique, j'ai pu bien vérifier que je pouvais battre des mecs de 100 kilos s'ils n'avaient aucune technique. Je peux casser le bras, je peux étrangler, je peux renverser. Et en fait, c'est très rassurant de se dire aussi que la technique peut surpasser la puissance.
Bonjour. Je tiens à vous féliciter pour votre carrière. Et lorsque vous faites déjà ici pour les jeunes à Nantes. La troisième question, c'est quelle satisfaction tirez-vous de l'MMA ?
Alors déjà, dans ma pratique, alors en tant que pratiquante et compétitrice, je suis plus maintenant combattante, mais à l'époque, la compétition permet de se surpasser, d'affronter ses peurs, d'avoir aussi une rigueur, parce que quand on fait de la compétition, quand j'en faisais, c'était à haut niveau, et il faut beaucoup de sacrifices et de rigueur, de discipline, et c'est une belle école de la vie aussi. Que de s'astreindre à une routine qui n'est pas forcément... On saute pas de joie à s'entraîner tous les soirs, c'est très fatigant, surtout quand on est un petit gabarit comme moi. J'étais toujours avec des gros costauds à l'époque, il y avait que des gros costauds qui s'entraînaient. Donc pour moi, les entraînements étaient toujours, en tout cas physiquement, très difficiles, mais mentalement, ça me renforçait, ça me permettait aussi après de transposer ça dans la vie à l'extérieur, parce que la salle de sport, c'est aussi quelque chose à l'intérieur, et puis quand on sort, on a une autre vie, et ça m'a beaucoup, ça m'aide beaucoup. Et aujourd'hui, maintenant, la satisfaction que j'en tire, c'est que j'ai un savoir que je peux transmettre, et le MMA est un prétexte, c'est plutôt un outil pour transmettre d'autres choses. Le MMA, pour moi, maintenant, c'est plus que de la technique m'intéresse, les compétitions m'intéressent, je coach des compétiteurs, j'essaye de les amener à leurs rêves. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est pas d'apprendre des techniques. Très souvent, les gens ne se rendent pas compte du potentiel qu'ils ont, pour diverses raisons. Et coach, et entre autres de MMA, parce que c'est un sport extrême, où il faut se dépasser absolument, on ne peut pas faire ça à moitié. Et du coup, ça révèle beaucoup de personnalités. Et les gens, quand ils se surpassent, se rendent compte qu'ils peuvent faire des grandes choses. Et ils sont très fiers d'eux. Et ils peuvent. Et du coup, il y a une confiance qui grandit. Et en fait, de ne pas avoir peur du regard des autres. Moi, je trouve ça très important aussi en tant que femme. Les femmes sont beaucoup regardées, beaucoup jugées. On dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est très compliqué, en fait, de correspondre à toutes les demandes de la société. Et en fait, quand on, en tout cas pour ma part, et je vois par rapport aussi aux féminines que j'ai dans mon club, une fois qu'on connaît notre propre valeur, qu'on sait jusqu'où on peut aller, le regard des autres, en fait, on vit pour soi et pas à travers le regard des autres. Moi, on peut m'insulter, on peut me dire un machin. Vraiment, ça ne me touche pas du tout. Parce que je me dis, c'est plus la personne en face qui est mal, quoi. Moi, c'est pas parce qu'on va m'insulter que du coup, je deviens ce qu'on dit de moi. Bizarrement, ce qu'on peut appeler le MMA, c'est un sport violent. Ce qu'on dit, en tout cas, les gens disent que c'est un sport violent. Pour moi, du coup, cette violence-là, qui n'est pas une violence, m'a apporté la paix.
L'atelier sur Prune 92 FM.
Bonjour, vos débuts dans un sport?
J'ai commencé le sport de musculation en Afghanistan, à Baghlan. Depuis 10 ans, j'ai fait ce sport.
C'est-à-dire que voilà, j'avais un cross couleur bleue. Et quatre potes sédentaires. C'était mes potes quoi, de la ville. Je traînais beaucoup avec eux. Et à côté de qu'on stationnait, il y avait un terrain de cross. Et ça fait qu'on faisait du cross là-dessus. Bon. Des chutes, on en a fait, très beaucoup. Et après, j'ai un souvenir très jeune. J'avais entre 7 et 8 ans. J'avais un BMX. Et là, comme un enfant qui ferait comme tous, j'ai descendu une descente très grave. Et puis j'avais mes deux pieds sur les deux pédales et il allait très vite. Je me suis rendu compte qu'il allait très vite et puis j'ai essayé de freiner mais j'ai plus de frein. Et ça fait que je m'en mêlais avec le vélo et le vélo, il n'y avait pas de selle. Alors ça fait que la selle, elle m'a tapé dans mon bras et j'ai toujours le souvenir. Hein. Voilà, il n'y a plus de... 25 ans de cela. Et c'était très dur pour moi. Puis mon oncle, il m'a vu tomber par terre. Et puis ça fait qu'il m'a pris. Il m'a emmené chez mon grand-père. Et mon grand-père, quand il a vu ça, ça l'a choqué. Il a pris cette voiture qu'il avait ici avant. Je m'en souviendrai toujours. C'était une Ford Canada. Et il m'a emmené au docteur. Après, bon, mon grand-père était en colère, il a pris le vélo, il l'a jeté dans le buisson. Et là, ce jour-là, hein, il ne voulait plus que je fasse du vélo. Mais moi, quand j'aimais bien le vélo, donc pas longtemps après, peut-être 6-7 mois après, il m'a vu qu'à vélo. Et ça l'a fait vraiment drôle. Il dit, tu veux retomber? Non, je dis, là, ce jour-là, non, ce coup-là, il a du frein. Et puis après, je faisais du cross avec mes copains, j'étais content. Voilà. We'll be right back.
Vous venez d'entendre Eye of the Tiger, bande originale du film Rookie par le groupe Survivor. On va maintenant écouter la deuxième partie de l'interview de TVC sur son expérience au Japon.
À fond la forme.
Dans l'arène avec TVC.
On voudrait savoir pourquoi avoir choisi le Japon alors que les États-Unis ou même l'Europe de l'Est sont aussi des territoires où le MMA est présent et était déjà présent, je crois, oui. À l'époque.
À l'époque, donc au tout début du MMA, les grosses nations, c'était les États-Unis, le Brésil, le Japon et la Russie. Moi, je suis partie au Japon principalement par mon gabarit. Dans le monde, déjà, enfin, en France, il n'y avait aucune femme. En Europe, non plus. Et du coup, mon gabarit étant asiatique, j'ai un petit gabarit, je suis un poids léger. Si j'allais aux États-Unis, les femmes combattantes professionnelles, parce qu'il n'y avait pas d'amateurs à l'époque, on passe tout de suite professionnelles, étaient déjà d'un gabarit différent. L'américaine dont je parlais tout à l'heure était déjà deux catégories au-dessus de moi, même quand j'ai combattu au Japon. Dans le MMA, il y a aussi des styles. Selon les pays, surtout à l'époque. Maintenant, ça s'uniformise beaucoup plus, mais à l'époque, les États-Unis, c'était un style, le Brésil, un autre style, la Russie, un autre style, le Japon, un autre style. Et en fait, le Japon, c'était la solution pour moi qui était la mieux, dans le sens où j'aime bien la culture asiatique, je parle un peu japonais. À l'époque, il y avait vraiment, c'était les premiers où il y avait des circuits de combattantes femmes professionnelles, un vrai circuit avec plein de filles qui étaient encore plus légères que moi. Et en France, j'étais vraiment la plus légère, je faisais 52 kilos, mais au Japon, il y a des femmes qui combattent à 44 kilos. Donc c'est vraiment des crevettes, des bagarres de crevettes, quoi. Mais je suis partie là-bas parce que j'avais vraiment, je savais que je pouvais combattre beaucoup professionnellement et en plus dans des bonnes conditions.
N'était-ce pas un sacré challenge compte tenu des différences culturelles entre nos sociétés, tu vois, entre la société occidentale et la société japonaise? Les cultures sont vachement différentes, les styles de vie.
Encore une fois, c'est de l'expérience. Quand je suis partie au Japon, je parlais un peu japonais. Après, je suis d'origine cambodgienne, donc l'Asie, il y a quand même une culture qui est assez commune, enfin pas commune, mais il y a des points communs entre, on va dire, le Cambodge et le Japon, notamment sur, on va dire, plein de petites choses qui, on enlève les chaussures quand on rentre dans une maison, il n'y a pas trop de contact physique. Des petites choses comme ça où j'étais très habituée, on va pas, il y a pas mal de retenue aussi dans les sentiments. Alors après, moi, je suis d'origine cambodgienne et je suis née en France, donc je suis quand même beaucoup plus française que cambodgienne, mais je comprenais les codes japonais. Et le fait d'être justement une étrangère au Japon m'a permis de m'exprimer encore peut-être plus qu'en France et encore plus que les Japonais, parce que j'avais l'excuse d'être étrangère et de faire un peu n'importe quoi. Parce que les Japonais, eux, sont très stricts dans leur manière de vivre et c'est comme très très dur d'être japonais au Japon. Et c'était très intéressant pour moi d'être en immersion dans une culture totalement différente où là c'est vraiment une nation, il n'y a pas d'individu. C'est une nation sur un truc et les personnalités sont complètement effacées. Et dans le MMA, en fait, c'est des gens très différents qui pratiquent le MMA au Japon. C'est un petit peu comme en France à l'époque. C'est un petit peu des gens en France. Les gens qui pratiquaient le MMA au tout début étaient vraiment des têtes brûlées. Soit des rêveurs qui... On veut être le plus fort dans n'importe quelle discipline. On a un objectif. On veut le côté un peu samouraï du truc ou chevalier. Ou des gens complètement cramés qui veulent se bagarrer, quoi. Au Japon, on retrouvait ça dans le sens où quand on pratique le MMA, du coup, c'est pas du karaté, c'est pas du judo. Il y a moins de codes, c'est un sport nouveau. C'est un sport qu'on crée un petit peu et qui n'est pas formaté. C'est quand même un art martial, mais c'est un art martial sport spectacle, sport de combat. Donc il y a tout à inventer et les Japonais étaient aussi très créatifs, enfin ils s'exprimaient beaucoup. Et j'ai pu évoluer dans un milieu un petit peu à part aussi au Japon, avec des gens un petit peu barrés quand même. Et ils sont encore mes amis aujourd'hui. On a créé vraiment le sport aussi, malgré les différences culturelles. donc en 2024, et j'étais au Japon là il y a 3 mois, revoir tout le monde comme si c'était hier. Et au contraire, la différence est pas un barrage. Au contraire, on trouve des points communs très très forts, surtout grâce au sport, qui est un langage universel.
Quel bilan tirez-vous de cette expérience au Japon?
J'ai pu combattre beaucoup. Du coup, quand j'étais en France, le MMA n'existait pas, et à chaque fois qu'on me demandait ce que je faisais, je devais expliquer tout. On me prenait pour une sauvage, une bagarreuse, etc. Alors qu'au Japon, j'étais considérée vraiment que c'était un métier, combattante et un métier, respecté, tout aussi honorable que n'importe quel métier. Et ça, en tant que combattant, ça fait du bien qu'on nous reconnaisse aussi en tant que sportif. Et pas bagarreur, ça c'est vraiment... Maintenant, ça se sait plus parce qu'il y a beaucoup de reportages sur le MMA, on interviewe les sportifs, mais avant, nous, on pensait qu'on était juste des bagarreurs, qu'on aimait le sang et la violence, voilà. Alors que tout l'entraînement qu'il y a derrière, et vraiment, c'est des gros sacrifices. Et au Japon, ça, ils le reconnaissent, et c'était aussi agréable de... J'avais un fan club, j'étais une star là-bas. Ça m'a motivée aussi à continuer.
La pire expérience de votre carrière?
La pire expérience de ma carrière, ça va être plutôt... Alors, j'ai que des bons souvenirs, parce qu'on oublie les mauvais souvenirs, heureusement, ça nous permet d'avancer. Mais toute expérience, en fait, m'a été utile. Après, j'ai pas de pire expérience. Par contre, j'ai des expériences assez rigolotes. Mais on va dire la pire expérience, c'était mon dernier combat au Japon. Donc, j'ai combattu au Japon. Contre une Américaine, et en fait, elle sentait très mauvais. Oui. Et pendant le combat, ça me perturbait vraiment, je suis un peu, voilà, alors je fais du sport, les salles de sport, ça sent les pieds, ça pue et tout, ça me dérange pas. Mais là, je sais pas ce qu'elle avait fait, mais elle avait pris l'avion et elle s'était pas lavée et c'était compliqué pour moi. Et vraiment, j'ai ce souvenir de ce combat, je me disais, qu'est-ce qu'elle pue, tout le long. Voilà, donc voilà, c'était pas agréable du tout et j'ai perdu. En plus, et je me demande si c'était pas une technique pour que je perde.
L'atelier sur Prune 92 FM.
Si vous deviez partir dans un pays pour pratiquer ou découvrir un sport, vous aimeriez aller où?
J'aimerais bien aller en Italie découvrir le football.
Moi, j'aimerais aller à Marseille pour faire du vélo.
J'aimerais aller en Angleterre pour faire le football.
J'aime bien, pour faire pratiquement sport, aller au pied Thaïlande, parce que là-bas c'est bon température, et encore il y a bon traîneur, bon coach, encore c'est pas cher, c'est tout.
C'est passé en 2008, et ma village en Indéwa. C'est sur un match que, avec mes copains voisins, c'est un tournée de foot qu'on a fait. Avec Ricardo, Mike, Thiago, Taylor, Edivan, deuxième Mike, Alexandre, Mike, Matheus, Rony, André e Lucas. E plus que eu não perdi no primeiro match, eu não perdi 5-0. E o dezembro não ganhei 6-0. Então, isso é um souvenir que marquei por ser a primeira vez que eu não joguei um match, todo mundo junto.
A fome, la forme.
Dans la reine avec TVC.
Aujourd'hui, vous êtes une référence pour beaucoup de femmes. Qu'est-ce que cela vous fait?
C'est un grand honneur. Aujourd'hui, avant, j'étais plutôt vexée qu'on fasse référence à moi par rapport, en étant une femme, parce que j'étais une compétitrice d'abord. C'était vraiment ça. Et du coup, à chaque fois qu'on me ramenait au fait d'être une femme, souvent on me posait les mêmes questions qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne le prends pas du tout de la même manière parce que j'ai fait mon chemin et justement, on parle de prouver. Avant, j'étais plus jeune et je voulais prouver plein de choses. Donc, je me suis prouvée à moi en tout cas. Mais à l'époque, quand on me disait « Oh, c'est bien pour une femme », c'était pas bien, quoi.
Maintenant que vous nous connaissez, accepteriez-vous de faire une initiation ici ?
Même sans vous connaître, j'aurais accepté. Non, j'ai emménagé à Nantes en 2018 et je venais de Paris avant. Et je sais que le MMA n'est pas très développé forcément à Nantes et c'était un projet que j'avais aussi. Mais avec le Covid, etc., le sport a été mis en pause, ça a été compliqué. Et après, j'ai ouvert mon club qui me prend beaucoup de temps. Mais moi, je serais ravie de venir. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et voilà, pour faire les demandes.
L'atelier sur Prune 92 FM.
C'était en 97, à Pâques 97. Donc, moi, je suis athlète. Enfin, j'étais athlète déjà très jeune. Et j'étais entraîné par mon père depuis une bonne dizaine d'années. Et puis, je commence à être très performant. Et chez nous, il y a quelque chose qui s'appelle les Cafeta Games, qui sont les Jeux de la Caraïbe. Quand tu as moins de 15 ans et moins de 17 ans. Donc c'est marquant pour deux choses, en fait trois choses même. Les performances, forcément, que j'ai faites là-bas. Les rencontres, parce que c'est la première fois que j'ai rencontré, parce qu'on est dans la même catégorie d'âge, Usain Bolt, qui commençait déjà à l'époque à être une star, du coup, chez nous, dans notre catégorie d'âge. Et puis le fait que mon père ne soit pas là. Et que j'arrive à vaincre mon stress. Dans le 800 mètres, il y avait des séries le matin. Moi, j'avais jamais couru en compétition le matin, quoi. Enfin, les séries, elles étaient à 11h. À 11h, tu manges normalement. Donc, c'était compliqué. En plus, il fait chaud. Demi-finale le lendemain à 17h. Mais j'avais aussi les séries du 1500 le matin. Et puis le troisième jour, j'ai dû courir la finale du 800 et trois heures après, la finale du 1500. La première course, la première série du 800, j'avais vraiment peur. J'avais mal mangé, j'avais mal dormi et je m'étais dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai hésité pendant toute la course. En plus, c'est interminable sur piste parce que tu es en chambre d'appel pendant une demi-heure. Donc, tu vois les gens qui courent. En fait, tu entends les gens qui courent. Puis, c'est énorme chez nous. Hein. C'est comme le foot au Brésil. Il faut se dire que l'athlétisme dans la Caraïbe, c'est un truc de fou. Quoi. Des compétitions de jeunes, il y a 20 000 personnes dans les tribunes. Donc, ça gueule. Et toi, tu es en train de te préparer. Tu es sous la piste et tu entends les gens qui gueulent, mais tu ne vois rien. Donc tu te demandes ce qui se passe. Et je me disais, est-ce que je pars vite ? Est-ce que j'attends et l'emballage final, je sprint ? Et je savais pas trop. Donc j'ai rien fait du tout. J'ai attendu comme un con. Et puis j'ai sprinté dans la dernière ligne droite. Et puis le coach technique régional m'a dit que j'avais fait n'importe quoi. Ce qui était vrai, et qu'il ne fallait pas que je recommence. Mais il ne m'a pas donné plus d'explications. Donc le lendemain, je me suis dit, bon, ok, tout le monde dit que je vaux une 56, mais je vais faire le premier 400 en 56, on verra bien ce qui se passe après. Et en fait, en entendant les gens, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne derrière moi. Et là, je me suis dit, ça doit être comme ça qu'il faut que je cours. Donc... C'était une vraie expérience. Et c'est mon expérience la plus marquante, enfin moi, en termes de carrière, parce que c'est cette expérience-là qui m'a montré que je pouvais faire des choses immenses, en fait.
C'est quoi la plus bon dans le sport? Pour vous.
Le plus beau dans le sport est de pouvoir améliorer ses performances.
Bon, le mieux dans le sport, c'est la santé. Et après, regroupement des jeunes, des personnes, c'est le respect.
Tout bon sport pour moi, c'est la compétition, faire la compétition pour gagner un match.
Marquer un but.
C'était l'atelier sur Prune. Retrouve le podcast de l'émission sur prune.net.